Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Au programme du pédalo ce soir, on découvre le métier d'auteur et narrateur d'audiodescription qui consiste à décrire les images des œuvres audiovisuelles, à créer une version audio de la vidéo. Le logo AD que l'on voit parfois au début du film signifie que ce dernier est disponible en audiodescription. Très peu mis en avant ce métier pourtant essentiel pour les personnes malvoyantes et non-voyantes. Pour en parler, on reçoit Morgane Renaud, auteur et narrateur d'audiodescription. En deuxième partie d'émission, on vous propose d'écouter le reportage de la série Déjà Demain, les territoires face au changement climatique, réalisé par la Frappe et la Corlab. Ce septième épisode invite à combattre le réchauffement climatique en plantant les arbres. Voilà, vous savez tout de ce pédalo du jeudi 9 juillet, alors ajustez vos jets de sauvetage parce que le pédalo part à l'abordage.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
L'audio description, c'est une voix narrative et descriptive, qui s'ajoute à la bande son d'un film pour que le public malvoyant et non-voyant puisse s'immerger dans ce dernier. À travers le choix des mots, le champ lexical et son intonation, l'audio description permet de rendre accessible à tous l'expérience artistique. Pour en parler, on reçoit Morgane Renaud, auteur et narrateur d'audio description. Bonsoir.
Bonsoir Germain.
Alors je viens de le dire, l'audiodescription consiste à décrire des images pour un public non-voyant et malvoyant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment il fonctionne ton métier ?
Oui, bien sûr. Alors par où commencer ? En effet, tu l'as dit, l'audiodescription c'est donc une voix qui se rajoute. Alors là on parle bien sûr de cinéma, hein, parce que l'audiodescription s'applique maintenant à beaucoup d'art. Mais si on s'arrête au cinéma simplement, c'est donc une voix qui s'ajoute dans les films, c'est-à-dire qu'elle va se glisser sur la bande-son. Donc cette bande-son, on le sait, elle est faite de quoi ? De dialogue, de musique et de bruitage. Et donc cette voix va se glisser de manière la plus concise et précise entre les dialogues de comédiens, parce que bien sûr, c'est ça qu'on va écouter dans un premier temps, dans un film, c'est ça qui nous émeut, on est sur les acteurs, sur les comédiens. Donc moi je me glisse là-dedans et j'ajoute des informations pour, si je fais bien mon travail, que tous ces non-voyants, ces déficients visuels comprennent le film et, tu l'as dit, surtout s'immergent dedans.
Alors, il y a toute une phase d'écriture où tu dois te plier un peu au film en prenant un style pour bien rentrer dans cet univers. Comment tu arrives toujours à t'intégrer au film en changeant ta manière de parler, les mots que tu emploies, ton champ lexical ?
Oui, il y a au moins deux choses. Déjà dans la phase d'écriture, en effet, vu que le défi de ce travail, c'est que le résultat final ne soit pas un corps étranger. C'est qu'il soit vraiment intégré dans le film, dans son humeur, dans son ton, dans son rythme. Et donc, un premier travail va être d'ajuster mon registre de langage. C'est-à-dire, si je vais travailler sur, par exemple, une comédie, je vais pourquoi pas me permettre d'utiliser des mots peut-être argotiques ou un peu familiers. Si je vais travailler sur un film de tribunal, comme on en a eu récemment, des très beaux, eh bien là, peut-être mon dialogue, mon texte va être un peu plus, mon registre plutôt formel, peut-être un peu plus froid. Alors que si, comme j'ai fait récemment, je travaille sur un film, un joli documentaire comme ceux de Vincent Munier, par exemple, Le Chant des Forêts, la Panthère des Neiges, pour ceux qui connaissent, eh bien là, vu que Vincent, lui, propose des images très abstraites, très poétiques, eh bien là, je vais pouvoir m'amuser à aller plus dans le lyrisme pour m'ajuster à son ton. Et après, la deuxième chose, pour te répondre, c'est dans ma narration, eh bien, ma voix aussi va, mon ton va s'ajuster. Je vais peut-être être un peu plus souriant et avec plus de bonhomie sur une comédie et un peu plus intense sur un thriller, par exemple.
Alors, pour perfectionner ton texte, tu le relis en live pendant le film avec une personne non-voyante. Et cette personne, elle te redit si elle ne comprend pas certaines choses ou s'il y a besoin de précision. C'est le moment le plus important parce que tu as un retour pour une personne qui, elle-même, a besoin de ces audiodescriptions.
Oui, c'est ça. C'est vrai que moi, je fais partie de ceux, mais comme beaucoup, hein, qui défendent le fait de garder cette étape-là, de la conserver. C'est donc, oui, pour un peu reformuler, comme tu l'as dit, je passe une demi-journée avec une personne elle-même non-voyante, formée à l'audiodescription, et qui va effectivement soit me dire s'il y a des choses superflues, soit me dire si elle ne comprend pas certaines scènes, tout simplement aussi me proposer d'autres formulations, d'autres mots. Et c'est comme ça que, en effet, on va finir de fignoler le texte. Et moi, au final, en tant qu'auteur, ça va apporter un peu du crédit, ça va poser un tampon, quoi. Parce que ça me semble essentiel que, vu que ce film est destiné à ce public non-voyant, moi-même, je ne suis pas en plus non-voyant, même si je commence à avoir un peu une expérience de ce métier-là. Et bien, le fait que ces personnes-là, déficientes visuelles, interviennent, ça tamponne le truc. Et en parallèle, moi, ça me sert de formation, finalement. En fait, ça m'apprend à me mettre dans leurs bottes.
Et ces personnes, est-ce que c'est leur métier ? Parce que tu as dit qu'elles étaient formées, est-ce que c'est
oui.
leur métier ?
Alors, donc, on les appelle les relecteurs, relectrices non-voyants, ou les collaborateurs non-voyants, il y a plusieurs termes. Donc, c'est-à-dire que c'est un de leurs métiers. Mmh. Elles sont professionnelles, mais bien sûr, elles ne font pas que ça. Souvent, elles ont d'autres métiers en parallèle. C'est quelque chose qu'elles font en plus.
C'est quoi les retours les plus souvent que tu as des personnes qui sont malvoyantes ou non-voyantes face au film que tu peux faire en nos descriptions ? Qu'est-ce qu'elles viennent te dire ? Qu'est-ce que ça leur apporte ?
Ah, qu'est-ce que ça leur apporte ? Eh bien, souvent, il y a la phrase, la phrase qui revient souvent, qui est un petit peu poétique et touchante, c'est quand on vous dit « tu m'as aidé à voir, j'arrive de nouveau à voir grâce à tes mots, grâce à vos mots ». Là, je parle de tous les auteurs, bien sûr, pas que de moi. Donc, c'est-à-dire que les non-voyants, ils ont eu l'habitude pendant des décennies de regarder le cinéma, de l'écouter. Ils n'ont pas attendu l'audiodescription pour être cinéphiles, hein. Mais c'est vrai que grâce à... Tiens, voilà, j'ai la vraie réponse à ce que tu me demandes. Grâce à ce procédé, enfin, ils vont se mettre à rire en même temps que tout le monde, à avoir peur en même temps que tout le monde. Parce que, en fait, sans ça, imaginez la frustration d'une personne non-voyante dans une salle quand tout le monde éclatait de rire et qui rate ça ou qui ne sursaute pas en même temps que tout le monde. Donc, l'audiodescription ajoute ça quand même. On est tous un peu dans le même tempo, on apprend tous les nouvelles au même moment dans le récit du film.
Alors, pour faire une audiodescription, il faut être précis, mais il faut aussi donner de l'émotion. Comment on arrive à concilier les deux pour trouver un bon équilibre ?
Alors ça, c'est de l'expérience. En effet, c'est le vrai défi. Souvent, on me dit, mais t'as presque pas de temps. Alors, on va dire pour un film à peu près normal, en effet, il y a les dialogues qui défilent. Comment on fait ça ? C'est lire énormément. Moi, je suis passionné de langue, de littérature depuis toujours, et de films. Et le défi, ça va être de posséder une palette de termes de la langue française la plus large possible, et de choisir... pour ce moment du film, quel est le mot qui, comme disaient certains déficients visuels, en tout cas une dame qui m'a formé, qui s'appelle Claire Bartoli, quel mot va faire image ? Il y a des mots de la langue française qui portent en elles une puissance d'image, et d'autres un peu moins. Eh bien, l'audiodescription, peut-être que c'est d'avoir la force, la capacité de choisir ces mots-là qui d'un coup créent des vignettes dans la tête des gens.
On l'a évoqué tout à l'heure, les personnes non-voyantes n'ont pas attendu l'audiodescription pour être cinéphiles. Cette idée, elle arrive dans le milieu des années 70, aux États-Unis. Le premier film qui est diffusé en France avec une audiodescription, c'est Indiana Jones et la dernière croisade en 1989.
C'est ça.
Et depuis 2020, les films français doivent avoir une piste d'audiodescription pour obtenir l'agrément de production de CNC. Les évolutions, on voit qu'il y en a, mais elles sont plutôt lentes. Est-ce qu'on peut quand même dire que c'est reconnu de plus en plus ?
Ah, clairement, c'est-à-dire que tu l'as dit, entre les années 70 et 2020, donc je vous laisse faire le calcul, mais c'était assez long. Donc là, il y a eu des évolutions, une évolution très très lente, mais indéniablement, parce que pour vous dire, oui, tu l'as dit, 89, c'est Indiana Jones, et l'idée, elle apparaît en 75. Donc déjà, je pourrais peut-être vous brièvement raconter la petite anecdote de comment c'est né, mais entre le gars qui a une idée chez lui...
Tu peux y aller. Hein.
Ok. Et donc, alors vas-y, je vous la fais courte. C'est vers 75, il y a un prof d'université à San Francisco, il a son meilleur ami qui est aveugle, et quand il va lui rendre visite, qui a la télé qui est allumée, il voit sa femme qui murmure à l'oreille de son ami pour lui donner des informations. Lui, il trouve tout de suite, hop, il a l'idée, il se dit, mais il y a moyen de faire un truc, de travailler sur la bande-son, à voir. Il y réfléchit, mais en fait, ça apporte pas trop ses fruits parce qu'il n'arrive pas à développer l'idée. Sauf que très vite, au bout de quelques années, on va dire, il y a un nouveau recteur qui arrive dans son université et il s'appelle Auguste Coppola, qui est donc le père de Nicolas Cage. et aussi le frère, bien sûr, de Francis Ford Coppola. Et là, bah voilà, on imagine tous qu'il y a un tremplin qui s'opère. Auguste, il est hyper emballé par l'idée et qu'il en discute avec son frère Francis Ford. Et là, ça va accélérer. Et c'est comme ça qu'on en arrive à... Et ce qui est aussi assez étrange, c'est que très vite, Coppola, il invite à développer cette idée des jeunes étudiants français, qui sont un peu les pionniers de l'audiodescription, et qui après reviennent en France à Cannes. Parce qu'il me semble que, justement, Indiana Jones, c'est à Cannes qu'il est diffusé. Mais tout ça, mais entre 75 et 89, pratiquement 15 ans. Et là, gros saut en avant, en effet, à partir de là, ça va arriver tout lentement. On va avoir donc, premier film à Cannes en 89, puis... Premier film à la télé, c'est vers 93, 95, je crois que c'est Les Anges Gardiens, pour les geeks de cinéma, ça les fera sourire. Après, on a je crois le premier DVD, c'est Amélie Poulain en 2001. Vous voyez, donc les sauts, ils sont très lents. Et je pense que le vrai sursaut, c'est ce dont tu as parlé, 2020, avec cette loi qui exige que tous les films français qui sortent en salle soient audiodécrits. Et donc, pour compléter ce que tu as dit, en effet, pour récupérer l'agrément, en gros, le CNC va donner l'agrément à tous les et subventionner les films de moins de 5 millions d'euros. Donc 5 millions d'euros, c'est un petit film pour la France. Et plus de 5 millions d'euros, de toute façon, le film doit se l'autofinancer. Et donc ça permet à ce que tous les films soient audiodécrits.
Alors en France, il y a peu d'auteurs et de narrateurs de description, quelques dizaines, peut-être une cinquantaine à peu près. Comment ça se fait que ce soit si peu répandu, alors que maintenant il y a des lois qui obligent des films à avoir une piste de description? Ça devrait faire augmenter le nombre de métiers, le nombre de personnes qui font ce métier.
Oui, alors il augmente quand même lentement, enfin tranquillement. Moi, ça fait plus de 15 ans que je fais ça, un peu plus. Et je pense qu'on était une poignée, une dizaine quoi, une douzaine quand j'ai commencé. Là, on est peut-être entre 50 et 100. Mais tu vois, l'agrément, cette loi, elle date de 2020. Et alors, on va dire que le métier commence à être répandu. Les gens, ça y est, l'ont identifié. Ils savent ce que c'est. Il y a des films tous les soirs. Et le nombre d'auteurs augmente tout doucement. Mais après, c'est comme tous les métiers. Faut pas non plus qu'ils soient saturés. Donc, on n'a pas besoin d'être 200 non plus. Je peux quand même te dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour le devenir. Moi, je reçois beaucoup de coups de fil de gens qui me demandent des conseils ou pourquoi pas de leur mettre le pied à l'étrier. Donc, si ça intéresse des gens, ça intéresse beaucoup de monde, bah, parce que c'est passionnant, en fait. C'est de l'écriture, c'est du cinéma, ça touche à la sensibilité de chacun, à l'image. Donc, oui, c'est un métier génial. Et en plus de freelance, qui amène beaucoup de liberté.
Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, l'accès à l'audiodescription, il est assez démocratisé dans la culture, où il y a encore du progrès à faire? Donc, on a évoqué le cinéma, maintenant c'est devenu obligatoire, mais par exemple sur les sites de streaming.
Alors, à la télé, on peut dire qu'on a fait un bel effort. Tous les soirs, on peut regarder des films. Les sites de streaming, donc quand tu dis sites de streaming, tu parles aussi des plateformes? Parce que ouais. Sur les plateformes, c'est pas mal accessible. Okay. Par exemple, bah, vu qu'Arte les diffuse en direct, tu vas avoir beaucoup de films audio-décrits sur les plateformes. De même pour les autres plateformes plus énormes, type Amazon, Netflix, y en a aussi. Là, par contre, où il y a du progrès à faire, Canal aussi, voilà, je cite des noms pour que les gens, s'il y a des personnes non-voyantes qui n'ont pas encore trop exploré ces plateformes, voilà, je cite des noms pour qu'elles sachent où les trouver, quoi. France Télé aussi, beaucoup. Mais par contre, là où il y a et c'est un peu ironique, là où il y a un énorme progrès à faire, c'est, on a parlé de cet agrément, c'est cette loi de 2020. En effet, toutes les semaines, tous les films qui sortent en salle maintenant sont audio-décrits. La blague, c'est que je crois qu'il n'y a pas plus de 300 salles équipées en France, des salles de cinéma. Sur les, je crois, au moins une dizaine de milliers qu'on a en France, on est le pays qui a le plus de salles de cinéma, on est le pays dans le monde. Et donc, on n'a qu'une poignée de centaines de salles équipées et encore avec parfois du matériel balbutiant. Donc, c'est là que c'est dommage et qu'il faut sensibiliser, je vous appelle, mesdames et messieurs, les exploitants de salles, pour qu'ils et elles s'équipent.
On continue de parler du métier d'auteur et narrateur d'audiodescription avec Morgane Renaud. Mais avant, on fait une pause musicale. On écoute 77 Blackout de Brooklyn Funks Essential, un groupe de musique qui mélange jazz, hip-hop et de la funk. A tout de suite dans le PD. I looked outside and everything was black.
Look out, darkness. It took the World Trade Center and the Brooklyn Bridge. Everything was pitch black. My God, I've been saying it's a blackout. There was a dead silence for possibly 3 to 5 minutes, and suddenly a yell came up from the street. You couldn't see the faces, all you could hear was the sound of feet running and the sound of glass being smashed or these storefronts being ripped open.
C'était 77 Blackout de Brooklyn Funk's Essential. Vous êtes bien sur Radio Campus à l'écoute du Pédalo. Et on est toujours en compagnie de Morgan Renaud, auteur et narrateur d'audiodescription. Alors, comment tu as découvert ce métier et qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire ?
Eh bien, je l'ai découvert. J'étais en 2009. Je me destinais. Moi, j'étais étudiant en audiovisuel et en traduction. Ça existe. Il y a quelques formations. C'est traduction audiovisuelle. Ce sont donc des formations qui vous apprennent à être sous-titreur et doubleur. C'est-à-dire qu'auteur de doublage. Moi, je me destinais à ça parce que j'ai toujours été intéressé, fan de littérature anglaise, de traduction. J'ai aussi développé ma cinéphilie en développant la langue anglaise. Et donc, je me destinais à ça. Et étant, on va dire, stagiaire, pour ceux qui connaissent un peu le sous-titrage, dans une grosse boîte de sous-titrage qui s'appelle Titrafilm, j'ai, dans ce petit mois de stage, croisé la route d'une écrivaine à la base qui avait eu une petite renommée pendant mai 68, une écrivaine 68arde, mais qui était aussi en parallèle autrice d'audiodescription, qui s'appelle Hélène Bleskin. Elle venait de temps en temps travailler sur des films. À l'époque, c'était vraiment très, il n'y en avait pas beaucoup. Et j'ai entendu parler de ça et je suis allé traîner dans son bureau, littéralement. Et avant que mon stage se termine, la PDG de l'entreprise de l'époque m'a convoqué en me disant « c'est une discipline qui va se développer, est-ce que ça te dit qu'on te mette le pied à l'étrier ?» Et pour répondre à ta question, pourquoi ça m'a intéressé, la première chose, pour être tout à fait sincère, qui m'a intéressé, c'est que j'ai trouvé ça, parce que bien que j'étais intéressé par la langue anglaise, la littérature française aussi a toujours été une passion, et les mots, le langage, qu'il soit soutenu, argotique, moi j'adore tous les langages. Et donc l'idée de traduire des images, adapter des images en mots, ça c'est vraiment ce qui m'a branché au tout début.
Alors on a évoqué toutes les différentes étapes pour créer une piste de description. Combien de temps ça prend pour la réaliser ?
Eh bien je dirais alors moi il faut savoir que je commence à quand même avoir pas mal d'expérience. Plus de 15 ans, j'ai arrêté de compter un peu les films, j'ai dû en faire plus de 500. Donc, le premier film, j'ai mis 3 semaines à l'écrire, mais maintenant, je mets une petite semaine quoi, pour écrire tout le texte, sachant que j'ai conscience que je fais aussi partie des auteurs rapides, je crois que je le suis, même si je reste très rigoureux. Donc, il me faut une petite semaine. La relecture avec le collaborateur, la collaboratrice, c'est une demi-journée. Et après, on n'a pas évoqué la partie en studio, ça aussi, c'est une demi-journée de studio. Donc on va dire qu'en une grosse semaine, on peut faire un film correctement.
C'est quoi une journée type dans la création d'audiodescription ? J'imagine que tu dois avoir pas mal de demandes de films, comme vous êtes plutôt peu. Comment tu choisis les films que tu as envie de faire aussi ?
Oui, alors pour être tout à fait transparent, il y a eu toute une phase, comme tous les métiers peut-être freelance ou aussi liés à l'art, les premières années, ça abondait pas forcément. Donc, je dis ça pour tous les gens qui veulent travailler dans ces milieux-là. Il faut accepter que quand on se lance dans le freelance, au début, ça arrive au compte-gouttes. Donc, on est obligé d'avoir des métiers alimentaires sur le côté. Et en effet, au bout de 4-5 ans, ça commençait à plus pleuvoir. Et donc là, ça commence, c'est devenu très intéressant. Moi, j'avais quand même très vite cet ancien réflexe de personne qui manquait de travail, de jamais refuser. Mm-hmm. Donc au début, vraiment, j'acceptais tout. Et donc, j'enchaînais les films. Et là, en effet, je vous cacherai pas que, étant passionné de cinéma, oui, si on me propose un film très intéressant, une rediffusion d'un vieux film du patrimoine, par exemple, à côté de, je sais pas, d'une petite série qui m'intéresse moins, voilà, je me permets de choisir, en tout cas, ce qui, cinématographiquement, peut plus m'intéresser.
Tu as fait l'audio-description du documentaire Le Chant des Forêts. Oui. Un documentaire récompensé deux fois aux Oscars. Au César, pardon. Est-ce que ça fait quelque chose d'avoir fait l'audio-description d'un film récompensé? Et est-ce que, quand tu as su qu'il était récompensé, ça t'a fait un peu stressé de devoir faire une audio-description derrière?
Ah, mais c'est encore plus cool et excitant que ça, c'est que je l'ai fait avant qu'ils reçoivent les Césars. Okay. Là, vu que c'était une sortie cinéma, j'ai fait partie au moment de la post-production du film, quoi, du bouclage du film avant sa sortie. Donc, c'est-à-dire que dans ces moments-là, on fait partie de l'aventure de l'équipe, sachant que moi, j'avais déjà travaillé sur son film d'avant, Vincent Munier, La Panthère des Neiges, qui avait aussi reçu un César. Et d'autant plus que c'est un sujet, moi les documentaires, notamment les documentaires sur le vivant, surtout d'une telle qualité, c'est vraiment, moi c'est un sujet passion, je le cacherai pas. Et donc ceux-là, je me penche dessus mais avec une rigueur extrême quoi. Pour Le Chant des Forêts ou La Panthère, je vais vraiment lire des romans avant pour étayer mon vocabulaire. Imaginez quand vous devez parler de forêt pendant 1h40, très vite on peut se mettre à répéter les termes tronc, arbre, branche, feuillage. Et l'idée c'est d'être beaucoup plus créatif que ça. Et donc là vraiment ça devient un métier, c'est un autre niveau quand on travaille sur ces films-là. Et bien sûr quand t'as fait partie de l'aventure, quand le sujet te tient à cœur, j'étais devant les Césars, devant la cérémonie à palpiter comme si c'était mon film quoi. Donc énorme fierté quand ils ont récupéré les petites statuettes.
C'est quoi aujourd'hui les plus grosses difficultés dans ce métier pour créer de l'audiodescription?
Les plus grosses difficultés, tu veux dire en tant qu'auteur, dans l'écriture ou dans le métier en général pour qu'il se développe?
Dans ton expérience à toi
Dans mon expérience à moi, eh bien, j'ai envie de dire que les difficultés... En fait, il y en a plein, ça dépend des films. Par exemple, si je vais travailler sur un... Les films d'animation sont peut-être les plus ardus à faire parce que... Ils s'adressent à un public d'enfants. Ils vont très très vite. Je vais donner un exemple. Moi, j'ai travaillé sur Les Mignons, sur Moi, Moche et Méchant. J'en ai fait plein d'autres, hein, mais celui-là me vient à la tête. Pour les gens qui ont des enfants, Grizzly et les Lemmings, je ne sais pas si ça leur parle, c'est un peu comme Les Mignons, quoi. C'est des bestioles qui passent leur temps à se martyriser. Et donc, c'est 12 gags à la seconde. Ça, c'est hyper dur, parce qu'il faut réussir à décrire des gags hyper rapidement et rester dans le tempo du film. Parce qu'en plus, ces gags, souvent, ils fonctionnent grâce à des bruitages. Et on n'a pas du tout envie de parler sur les bruitages. Comme quand on fait un film d'action aussi. Les films d'action peuvent être un peu compliqués. Quand il y a notamment, atypique d'un film d'action, des poursuites en voiture, des coups de feu, l'idée, c'est de se mettre dans le rythme du film pour qu'on continue de palpiter et donc de ne pas parler sur des claquements de porte, des coups de feu, des crissements de pneus, etc. Donc ça peut être... ces films-là peuvent être un peu plus compliqués, ouais.
Alors, tu ne fais pas que de l'audio-description de films, mais aussi des concerts en live avec l'association Valentin Ho, je crois.
Valentin A8.
A8, très bien. C'est quoi la différence avec les audio-descriptions de films?
Ouais, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, pour moi, c'est presque un métier différent. Donc, pour remettre du contexte pour les gens, celle-là, c'est autre chose. L'audio-description en live, donc de concert, comme le nom l'indique, là, je n'écris pas à l'avance, c'est vraiment en direct. J'appelle ça presque du jazz vocal. C'est-à-dire que ça va être pour un concert dans un festival. Le public déficient visuel est dans le public avec un récepteur et un casque. Et moi, je suis aussi avec un espèce de casque micro de commentateur de foot. Et l'idée, ça va être en direct de leur ajouter des informations pour qu'ils comprennent un peu ce qui se passe sur scène. C'est-à-dire... c'est comme pour les films en fait, parfois vous avez l'artiste qui saute dans le public, qui va faire un câlin à un fan et ça émeut tout le monde et ça crée des réactions. Et donc quoi de plus frustrant si le public non voyant peut ne pas suivre ça. Et il y a l'autre chose, c'est aussi créer du contexte au concert. Donc cette audio-description de concert, elle se crée en deux phases. La première partie, elle va se passer avant même le concert, pendant ce qu'on appelle le changement de plateau. Je vais planter le décor, c'est-à-dire... tout simplement dire à quoi ressemble l'artiste physiquement, comment il va être habillé, il ou elle, La scénographie, qu'est-ce qu'on a sur scène comme instrument, expliquer ces instruments s'ils sont un peu compliqués, à quoi ils ressemblent, qu'est-ce qu'ils vont faire comme bruit. Là bientôt je vais au Francofolie mardi prochain, pour, donc ce sera le concert de Mika. Donc vu qu'on est au Franco, j'ai aussi décrit le contexte, le lieu quoi, tout simplement, à quoi, je décris La Rochelle tout simplement, les petites églises, la tour du port qu'on voit derrière, et, donc c'est vraiment une mise en contexte.
Alors quand c'est pour un film, tu peux prendre le temps d'écrire, mais là comme tu viens de l'évoquer, c'est en live, c'est en concert, est-ce que tu peux te préparer un petit peu en avance, est-ce que tu as des artistes qui t'envoient des petites choses pour que tu puisses...
Oui, bah, la partie, ce qu'on appellera plantage de décor, celle-là elle est préécrite. Et une fois qu'en effet le concert commence, là c'est un peu plus improvisé, mais il y a tout de même une préparation qui va être déjà de récupérer la setlist du concert. Ça va beaucoup m'aider. Parce que l'idée c'est de beaucoup écouter les chansons pour les connaître par cœur et donc de savoir avant même que ça arrive les moments où l'artiste ne sera pas en train de chanter. Donc de connaître les parties instrumentales, aussi parler entre les chansons. Donc ça, c'est une première étape de préparation. Et il va y avoir aussi, les artistes peuvent m'envoyer des vidéos de live. Mais bon, parfois, c'est un peu dur. Donc, la préparation, c'est aussi passer pas mal de temps sur YouTube, par exemple, à regarder des concerts qui ont eu lieu il y a quelques jours. Ça, c'est la chance de travailler sur la période de festival. En général, l'artiste, il a joué 3-4 jours avant dans au moins 2-3 festivals. Donc, je fais mes petites recherches, mes petites enquêtes pour voir un peu ce qui se passe sur scène, comment il ou elle est habillé.
Alors, tu as déjà fait le concert de Soprano. Cet été, comme tu viens de l'évoquer, tu seras au Franco pour le concert oui. de Mika. Et tous les soirs de rock en scène, pour le concert de The Cure ou de Mickey,
oui.
t'es beaucoup demandé. Ça doit te faire plaisir de voir que de plus en plus d'événements prennent en compte les personnes malvoyantes et non-voyantes pour qu'elles puissent vivre le moment au maximum.
Oui, en effet. Et pour préciser, rock en scène, on aura donc Mickey, mm-hmm. L'artiste Joe, mm-hmm. Nick Cave and the Bad Seeds, Amil and the Sniffers, pour les fans de rock qu'on voit un peu, et The Cure. Et donc, en effet... Cette initiative, elle prend vraiment de l'ampleur. Là, j'ai eu le coup de fil de Rock en scène, en effet, avec Valentin Ahuy, on a eu cette proposition qui fait énormément plaisir. On en a d'autres festivals. Parfois, on n'a pas le temps de les mettre en place, mais on se rend compte que ça en intéresse beaucoup et on est en train de s'imaginer que peut-être dans les étés à venir, on va être de plus en plus présent, sans aucun doute, dans les festivals. Et tu parles d'initiatives, en effet, il y en a plein d'autres, hein, pour le théâtre... Moi, là, pour parler de ce qu'on connaît d'Angers, j'ai été appelé pour travailler sur le château du Plessis-Massé, par exemple, décrire le château. Donc maintenant, c'est accessible aux non-voyants qui voudraient aller le voir. On avait entendu parler il y a 2 ans, 1 an et demi, de l'exposition Profondeur à la Collégiale Saint-Martin de Lucie Lhomme, qui était aussi passionnante qu'on m'avait proposé de faire. Donc oui, il y a un peu, ça commence à intéresser tous les arts. Et ça, c'est super.
Merci beaucoup, Morgane Renaud, auteur et narrateur d'audiodescription, d'avoir été notre invité ce soir. Dorénavant, quand vous verrez apparaître le petit logo AD au début de vos films, vous saurez tout le travail et l'histoire qui se cache derrière. Bonne soirée! Le pédalo, c'est bientôt fini, mais avant, on vous propose d'écouter un reportage réalisé dans le cadre de la série de la Frappe et de la Corlab. Déjà demain, les territoires face au changement climatique. Les forêts seront-elles les armes ultimes face au réchauffement climatique? Des citoyens et citoyennes du Sud-Vilaine le pensent et se retrouvent ainsi pour planter des forêts. Entre découverte de la nature et envie d'aider les générations futures, l'association Les Planteurs du Bois et Loup a mis en place un chantier à Bourbarré. 3 ans après les premières plantations, l'association, aidée par le collectif citoyen Tiplanète et des salariés de la Fondation Rocher, engagés dans le programme RSE, sont venus réaliser un chantier d'entretien. Un reportage de Simon Leclerc de Radio Laser.
Onde durable. Déjà demain, les territoires face au changement climatique.
Une collection de reportages à la rencontre de celles et ceux qui transforment nos façons d'habiter, de vivre et de faire territoire.
On les laisse par terre après, c'est ça?
Ouais.
Oui, 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 oui. C'est bon, là.
Tac.
C'est déjà bien, ouais.
Voilà.
Attends, ça met pas la main. Okay.
Ouais. On les laisse comme ça. Ok.
Face au réchauffement climatique et aux menaces qui pèsent sur notre écosystème, chacun fait comme il peut. Et si la solution, c'était de planter des forêts pour les générations futures, c'est en tout cas une des idées des planteurs du Bois et Loup. Cette association plante un peu partout dans le Sud-Vilaine, en multipliant les arbres et les essences qui pourront résister aux bouleversements climatiques. On les rejoint maintenant. On est au sud de Rennes, à Bourbarré, lieu dit La Verrie. Accompagnés par une dizaine de planteurs, les membres de l'association démarrent leur mission du jour, nettoyer une mini-forêt qui a déjà été plantée. Jean-Michel Fourage, habitant de Bourbarais et secrétaire du collectif citoyen Type Planète qui aide les planteurs du bois et loup sur ce chantier, nous récapitule le projet.
Alors, c'est une plantation qui a été faite donc il y a maintenant 3 ans, c'est ça, en novembre, et c'est un grand espace qui est communal, c'est un terrain communal, c'est un ancien terrain de sprint cross. Donc, qui avait été remblayé et la commune donc a fait une convention avec les Bois et Loups pour que les plantations se fassent. Et donc il y a eu un grand chantier de plantation en novembre, il y a 3 ans, avec donc des habitants, les gens de l'association, voilà, qui sont venus pendant un samedi matin et l'après-midi aussi pour planter.
Robert, secrétaire des planteurs du Bois et Loup, nous explique ses missions du jour.
Concrètement, on va donner toutes les chances à cette forêt de bien pousser. Alors au bout de 3 ans, qu'est-ce qu'on va faire ? On va enlever les protections quand c'est nécessaire, c'est-à-dire quand les arbres ont suffisamment poussé. Sinon, on doit les laisser parce que les chevreuils viennent manger les feuilles fraîches qui viennent de pousser. On va désherber un tout petit peu. Mais ça, c'est moins important parce qu'il n'y a pas trop de mauvaises herbes. Enlever par contre les chardons et la parelle pour donner une chance à cette forêt d'être pas trop envahie par ces herbes envahissantes. Ouais. Voilà, et puis vérifier si on n'a pas eu trop de pertes non plus. Alors, quand on a planté, les conditions n'étaient pas forcément les plus favorables. On se demandait si on n'allait pas avoir des plants qui n'allaient pas pousser du tout. Et finalement, on a eu la bonne surprise de constater qu'on avait moins de 7% de pertes, ce qui est pas beaucoup. Et donc, depuis, ça, tout a poussé. Ceux qui avaient bien pris dès la première année ont tous poussé. C'est un beau départ, c'est très bien, c'est un plaisir de la voir grandir comme ça. Et qui va devenir après une forêt naturelle. Il faut attendre une dizaine d'années en fait pour avoir vraiment un début de forêt où les plus grands arbres ou arbustes ont atteint leur taille adulte, 10-12 ans on dit. Mais là, avant cette date, on aura un résultat visuel qui sera agréable.
Faire, si vous voulez, en même temps, ce que je peux vous poser une autre question.
Oui, allez-y. Mais au fait, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette forêt naturelle ? Jean-Michel Fourage fait le point.
Plein d'espèces, des espèces variées, mais adaptées au sol, enfin le plus possible adaptées au sol. Donc il y a en grands arbres, il y a de l'alisier, il y a du chêne, il y a des érables aussi un petit peu, il y a des robiniers, faux acacias, et il y a beaucoup de petits arbustes qui vont faire plus du bourrage, quoi, donc en arbustes qui sont plus qui vont rester plus au sol. Donc il y en a aussi pas mal qui ont été mis, du noisetier, de la jonc, je crois, il y a eu des choses comme ça. C'est ce qui pousse aussi dans les haies locales, quoi. C'est ce qu'on a dans les haies ici et dans les boisements de la région. Et donc c'est vraiment des arbres qui s'adaptent bien au sol et à la région, quoi. Après, il y a certains qui vont avoir peut-être plus de mal avec le réchauffement climatique. Et c'est un sol ici, la partie ici, c'est quand même un sol assez sec, hein, on n'est pas sur une zone humide. Donc c'est des arbres qui doivent s'adapter à un sol quand même assez qui n'a pas beaucoup d'eau, même s'il y a de l'eau en profondeur, quoi.
Plus étonnant, parmi les planteurs qu'on trouve ici à Bourbarais ce matin, certains représentent le groupe Rocher, comme dans Yves Rocher. Que vient faire le groupe au milieu de cette mini-forêt ? Réponse avec Valérie Santerre, qui est en charge de la RSE pour le groupe Rocher.
Alors, le groupe Rocher est entreprise à mission depuis 2019. Et donc, on a été le premier groupe international à rentrer dans cette démarche. Et dans ce cadre-là, donc, les collaborateurs, chaque année, sur leur temps de travail, donnent une demi-journée pour aider les associations locales en mettant les mains dans la terre. Alors nous, notre objectif, c'est de soutenir des associations locales. Donc on le fait avec la Fondation Yves Rocher, qui est reconnue d'utilité publique. On vient avec des bras pour les aider, notamment dans l'entretien de cette parcelle de plantation. Mais aussi, la Fondation Yves Rocher apportera une dotation qui permettra justement de pouvoir financer quelques plants. Quand on plante pour le futur, et en l'occurrence, l'association, elle est là pour planter pour les générations à venir, bien évidemment. C'est pour ça qu'il y a toujours un choix dans l'association qu'on va soutenir et aussi un choix dans les essences qui sont plantées. Souvent, ce sont des essences locales labellisées pour pouvoir pérenniser les chantiers de plantation.
Vous venez de démarrer, vous êtes avec la bêche ici au milieu de cette future forêt. Votre ressenti ?
Alors, je trouve ça génial. Il faut faire très attention parce que le terrain est accidenté, mais c'est là où on voit la force et le pouvoir des plantes et de la nature. Et donc là, je suis à la chasse au chardon.
Là, on en dégage un petit, là, qui a débordé de sa chaussette. Donc, on va le libérer pour qu'il puisse bien s'épanouir.
Fabien et Julie travaillent eux aussi pour le groupe Rocher et je les trouve tous les deux bêches à la main.
On échange, ils connaissent mieux les essences de plantes, d'arbres, ils connaissent bien comment les planter, comment les faire grandir et puis bah, dans le coup c'est vraiment, oui, ça nous permet de mieux connaître la nature et d'apprendre comment l'entretenir. Moi j'ai trois gars, donc trois garçons, trois grands maintenant et donc forcément on pense toujours un petit peu à l'avenir parce que on s'inquiète pour eux et puis voilà, on est quand même artisans et maîtres de nos mouvements et de nos gestes sur la nature, donc je pense qu'à un moment, si on veut que nos enfants puissent grandir dans des espaces protégés, bah, il va falloir mettre dès aujourd'hui la main à la pâte et faire attention.
Je débroussaille, je ne sais pas si ce mot est très adapté, autour des arbres qui ont été plantés pour leur permettre de respirer un peu plus et de planter encore mieux. Je trouve ça très émouvant, moi, parce que ça donne de l'espoir pour si des gens se mobilisent comme ça pour rendre les espaces plus verts et d'apporter plus de nature dans notre vie, c'est des beaux projets. Dans mon métier, j'avais besoin de cette dimension un peu plus environnementale et donc de pouvoir s'investir dans le cadre de son travail et de faire des demi-journées sur le temps de travail où tu mets les mains dans la terre et que tu participes à naturaliser le paysage. Je trouve que c'est hyper chouette et c'est une chance.
Un autre Robert, membre du collectif T-Planète, cette fois est en plein travail. Comment il envisage l'avenir de ce lieu ?
Ah ben, on voit déjà que la nature est arrivée. L'autre jour, on est passé, il y avait plein de sauterelles. Et ben, on voit que les arbres poussent bien. On a eu très peu de pertes. On est venu les deux premiers étés à arroser. Donc en 2024 et 2025, chaque fois, on est passé deux fois. La municipalité nous a mis à disposition une tonne d'eau. Donc avec le collectif Type Planète, ben, quand il faisait très chaud en juillet, on est passé une fois. Et une fois au mois d'août. Ben pour moi, c'est le signe que l'on peut agir en faveur de l'environnement et ça fonctionne. La nature s'empare rapidement des espaces qu'on lui met à disposition. Si la végétation meurt, nous, on n'est pas loin derrière. Ça se voit déjà, une année, je ne sais plus laquelle, il y avait 41 degrés à Bourg-Marais, vous vous rendez compte? Et on a bien vu en 2-3 jours la végétation. Et si ça nous arrive encore plus fréquemment, on est mort. Hein. Et à la journée citoyenne, il y a 10 jours, là, on était 11 hein, pour une commune de 5000. C'est un peu dommage quand même. Hein. Et voilà, on aimerait bien avoir des gens s'engager pour leur propre environnement parce que nous, on est des citoyens comme tous les autres.
Hein. L'engagement, justement. Un chantier comme celui-ci, c'est de l'engagement. Myriam est trésorière de l'association des planteurs du bois et loups. Qu'est-ce qui lui donne envie de nettoyer des forêts de bon matin ?
C'est un grand intérêt pour la nature, une grande envie de à une petite échelle faire quelque chose pour permettre que toutes ces beautés qu'on admire toujours puissent perdurer et que nos enfants, c'est aussi moi je suis grand-mère, hein, que nos petits-enfants puissent apprécier ce qu'on a tellement apprécié. Et puis voilà, puis j'adore la nature, les grands espaces, les arbres, les forêts. J'ai appris plein de choses parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que je connaissais pas grand-chose sur les arbres. Voilà, je savais même pas les reconnaître. Donc oui, j'ai appris beaucoup de choses et on continue beaucoup à apprendre dans l'association. C'est notre objectif aussi.
Envie à votre tour d'apprendre, vous pouvez contacter les planteurs du bois et loup ou le collectif citoyen Type Planète et mettre la main à la pâte ou à la terre.
Vous venez d'écouter Déjà demain, les territoires face au changement climatique.
Une collection de reportages produites par la Core Lab et la Frappe
avec le soutien de la Fondation de France. Cette série s'inscrit dans le cadre du projet Onde Durable.
Un projet soutenu par l'État dans le cadre du dispositif Soutenir des alternatives vertes 2 de France 2030, opéré par la Banque des Territoires, groupe Caisse des dépôts.
Merci à Simon Leclerc de Radio Laser pour ce reportage. Le Pédalo termine sa traversée sur les ondes de campus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et avec moi durant mon stage. Merci Maëlle à la technique. La programmation continue sur le Centre FM. Alors restez bien avec nous et n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
À retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.